Je suis en compagnie de Jean-Noël Orango. Nous parlons de La fleur du capital qui vient de paraître aux éditions Grasset. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour Dominique.
Pour commencer dans ce livre épais de plus de 700 pages, nous pouvons parler des personnages, des cinq personnages que nous y rencontrons. Et tout d'abord, le premier dont nous faisons connaissance, qui s'appelle Marly. Nous allons parler aussi également des deux villes, de Pattaya, bien entendu, et puis aussi de, plus accessoirement, de Paris. Que vient faire ce personnage, Marly, à Pattaya?
Ben, si tu veux, au-delà de Marly, j'ai envie tout de suite de commencer par le fait que ce livre est le portrait d'une ville, et dans cette ville, effectivement, il y a des personnages qui émergent. Et c'est le portrait de la ville de Pattaya, en Thaïlande, qui est donc réputée comme étant la capitale mondiale du tourisme sexuel, mais qui est aussi la ville, la station balnéaire la plus populaire d'Asie du Sud-Est pour tout ce qui est tourisme familial. Et c'est aussi une ville en proie à la fièvre immobilière, à la fièvre de construction immobilière. Bon, Marly est le premier des cinq personnages qui apparaît, c'est un Parisien, c'est un peu la figure de l'artiste sans œuvre. Quand j'ai conçu Marly, en fait, il s'appelle Marly parce que c'est un pseudonyme. C'est très important les pseudonymes là-bas parce que la plupart des gens s'appellent souvent par des pseudos qu'ils se sont trouvés sur le net. Car quand ils reviennent en fait en Europe, à Paris ou ailleurs, après leur premier voyage, alors parfois ils se sont inscrits avant sur ces forums. Enfin, ils s'inscrivent sur des forums. Ils s'inscrivaient, parce qu'aujourd'hui ces forums ont pour la plupart disparu, mais ils s'inscrivaient sur des forums. Et donc ils trouvaient des pseudonymes, je les appelle un peu, c'est un peu des Pessoa des tropiques, si tu veux. Et la personnalité implicite de cette identité numérique finissait par contaminer leur identité propre. Et donc, voilà, Marly a ce pseudo. Un mélange entre Marlou et le Marly aristocratique qu'on connaît. Donc comme je te l'ai dit, c'est un peu un artiste, il symbolise un peu quelque part l'artiste sans œuvre au fond, qui vient chercher à Pattaya une confirmation esthétique qu'il ne trouve pas ailleurs et qu'il ne trouve pas à Paris, évidemment. Parce que Pattaya est marqué, entre autres, par... tout un ensemble de dérives, de choses qui permettent quelque part la confirmation de cette recherche.
Un artiste sans œuvre qui est plutôt tourné tout de même vers la littérature.
Alors, moins que les autres personnages, c'est vrai qu'il y a il y a toutes ces parties qui s'appellent des répétitions, dans lequel il meuble un peu son vide. Alors oui, on peut dire qu'il est cultivé, c'est un personnage que j'ai fait lecteur, beaucoup, mais qui est surtout marqué par un vide profond et l'incapacité à réaliser quoi que ce soit dans cette société où la carrière est quand même très importante. La notion de carrière, la notion de réussite sociale, lui en est incapable, il est incapable de cet effort-là. Par contre, il est tout à fait capable de se mettre à la place des autres. Il est tout à fait... C'est un rêveur, sans doute. Et il est tout à fait capable, effectivement, de combler ce vide par les figures qu'il peut emprunter dans l'actualité, dans la rue et dans ses lectures.
Marly, s'il vit souvent, s'il va souvent à Pattaya, c'est quand même aussi quelqu'un qui est profondément urbain, profondément parisien.
Oui, c'est une figure de l'urbanité, une figure de Paris. C'est quelqu'un qui a peut-être qui est aussi marqué par une certaine forme, non pas de nihilisme, mais véritablement l'inverse, une affirmation de soi-même contre justement cette espèce de carriérisme. Voilà.
Marly, s'il va à Pattaya, s'il y a été peut-être de manière occasionnel au début, après il en fait une véritable obsession parce qu'il y a cette figure féminine qui est Porn. Je dis figure féminine, Porn est un garçon qui est devenu une femme à la suite d'une opération médicale. Néanmoins, Porn se considère comme une femme et Marly aussi considère Porn comme une femme. Là, à Pattaya, Marley va faire la rencontre de Porn, ça va devenir une obsession pour lui, et s'il retourne à ce point à Pattaya, c'est pour cette fille-là.
Oui, entre autres, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des, enfin tous d'ailleurs, quand ils vont là-bas, et les personnages ne sont jamais que les reflets plus ou moins complexes des personnes réelles rencontrées. Encore une fois, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un rapport au réel qui est très important. Non pas réaliste au réel, mais le réel de Pattaya est apparaît comme une fiction. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la première chose importante, c'est l'obsession de Pattaya, avant même l'obsession des filles ou des ladyboys, parce que là tu parles de Porn, le personnage de Porn, qui est une ladyboy, qui elle n'est pas inventée du tout, qui existe vraiment. C'est l'obsession de la ville, c'est l'obsession de ce qu'elle donne. C'est une obsession finalement très complexe à analyser. Moi je dis que c'est une morsure esthétique. C'est-à-dire que c'est véritablement. Finalement, cette ville réalise un peu ce qui a été le folklore enfin, ce qui a été perçu comme le programme de la poésie moderne et qui aujourd'hui peut paraître folklorique, mais c'est le passage de la poésie à l'existence, cette imbrication permanente des deux, une volonté de sublimation aussi. Mais enfin, en tout cas, tous ces mots d'ordre qu'on a connus depuis Nerval, en passant par Baudelaire, en passant par Rimbaud, qui dit un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. À Pattaya, ça existe. De même, le passage hâtif à travers des ambiances variées de bord, c'est évidemment ça à Pattaya, la beauté convulsive aussi, etc., etc. On peut en trouver des tonnes, ces mots d'ordre qui ont fait partie qui sont presque devenus un folklore. Il y a une sidération quand on arrive là-bas parce qu'on les rencontre. Alors évidemment, la plupart des gens n'ont pas forcément ces lectures-là derrière eux, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont marqués par cette morsure strictement esthétique d'une vie paradoxalement consacré uniquement aux rencontres, à la vie festive, nocturne. C'est pas simplement une vie consumériste, on n'est pas là simplement contrairement à ce que l'on croit, c'est plus complexe. Le consumérisme est omniprésent, mais il y a un dérèglement qui se produit. Et c'est ça, c'est ça qui est très fort à Pattaya, c'est que c'est à la fois sans doute le summum de ce monde ultra financier, cette financiarisation complète, cette marchandisation complète. J'ai un peu du mal avec cette idée de marchandisation des corps, mais en tout cas, cette marchandisation qui aboutit à effectivement à un certain commerce par le corps. Et malgré tout, c'est un dérèglement complet parce que derrière les règles très précises, cette étiquette de cour, et c'est pour ça que cette première partie, la partie de Marly, c'est aussi pour ça qu'il s'est choisi ce pseudo, mais qui s'appelle Quartier Noble, cette étiquette de cour à base de bar fine, de lady drinks, de cette cour inversée, cette basse cour, cette cour basse, Versailles de sexe qui est Pattaya. Eh bien, dérègle tout ça. Il y a une gratuité parfois, il y a une même souvent qui est conquise justement sur ce terrain. C'est presque une joute pour accéder à la gratuité. C'est plus qu'un jeu, c'est une obsession chez certains clients de se faire aimer des putains qu'ils rencontrent. Et c'est un jeu pour les putains de jouer à l'amoureuse. Parce que parfois ça leur permet d'obtenir beaucoup plus, parce que parfois c'est aussi un luxe qu'elles s'accordent elles-mêmes par rapport à leur vie, de tomber amoureuses, de s'accorder une romance, et parce qu'elles-mêmes ont une hiérarchie de valeurs très complexe, et même entre elles, parfois, montrer qu'elles ont la capacité d'aller pour rien avec un bel occidental, parce qu'elles le choisissent en général jeune et plutôt beau gosse, c'est pour montrer autour qu'elles ont les moyens de se permettre ce luxe, elles ont les moyens de se permettre. Voilà. C'est véritablement une aristocratie de rue à Pattaya, une aristocratie féminine, de femmes, de filles, de ladyboys, aussi de garçons, parce qu'il y a évidemment des garçons qui se prostituent à Pattaya, en direction souvent d'une clientèle d'ailleurs masculine. Mais aussi parfois féminine, on en reviendra peut-être, mais c'est une des choses assez fascinantes, c'est de voir des filles de bar aller s'éclater dans des karaokés avec des gigolos, et les payer, les rincer, elles-mêmes qui sont prostituées vont dépenser leur argent avec des voilà. Et donc tout ça crée, si tu veux, cette figure particulière, cette cette figure particulière de Pattaya qui peut très vite devenir, enfin qui devient tout de suite d'ailleurs une sorte d'addiction, parce que c'est véritablement la fin la fin du zonage déjà que l'on connaît en Occident entre les différentes entre les différentes pratiques. La prostitution est omniprésente dans la ville, elle déborde de ses bars dans des proportions absolument immenses. Ce sont des milliers de bars, des dizaines de milliers de filles. Et ça, c'est la première obsession, et Marley la ressent, parce qu'avant qu'on rencontre Porn, il a rencontré la ville. Mais il se trouve qu'il rencontre Porn. Et ça arrive, j'ai envie de dire, à tout le monde. Là-bas. C'est-à-dire que, enfin, ou du moins à tous les punters, ce qu'on appelle les punters, c'est-à-dire les clients. Le punter est un mot très particulier aussi, mais ça arrive aux punters, c'est effectivement même les plus ceux qui se drapent comme ça dans une sorte de fierté du fuck and forget, je ne tombe jamais amoureux, etc. En fait, c'est totalement faux. Et donc, il y a toujours un moment où on tombe amoureux, c'est vraiment tomber, c'est-à-dire c'est vraiment une chute. On chute dans l'amour d'une fille, d'une ladyboy. Il se trouve que lui, c'est la figure de Porn, qui effectivement est une transsexuelle, est une ladyboy. Et pourquoi? Parce que les transsexuels sont très présentes à Pattaya, et leur équivalent, c'est-à-dire les tomboys, c'est-à-dire des garçons nés dans un corps de fille, mais qui sont des garçons, de très beaux garçons d'ailleurs, souvent, rien à voir avec, enfin ils n'ont pas ce côté butchy qu'on peut avoir, ce côté un peu, ce qu'on appelait les camionneuses bêtement ici, mais enfin, voilà. Et donc ils tombent amoureux de Porn, qui est une figure complexe. Qui est transsexuelle, qui est musulmane, qui n'est pas prostituée, mais qui est une gagneuse à sa façon, parce qu'elle est ce qu'on appelle là-bas, dans les différentes hiérarchies plus ou moins vraies qu'elle se donne, c'est une sponso, c'est une fille qui est sponsorisée, c'est-à-dire en fait dès le début, dès très jeune, dès 13-14 ans, quand les hommes s'intéressent à elle, eh bien, elle se fait donner de l'argent. Ce qui est très commun, enfin, ce qui est normal au Siam, hein, c'est pas quelque chose de choquant, la beauté se paie, il n'y a aucune raison que ce soit gratuit. Ça ne veut pas dire que cette beauté, on couche avec comme ça. Évidemment, c'est dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Mais souvent, par exemple, le porn, à ses débuts, elle se fait payer pour simplement aller dîner, simplement passer du temps, voilà. Et de fil en aiguille, cet argent facile, parce que c'est de l'argent facile, devient une part essentielle de son existence, alors qu'à la base, elle ne l'a pas cherché. Mais le fait est que sa beauté, qui est réelle, génère ça. C'est normal au Siam. Ses premiers admirateurs sont effectivement des Thaïlandais. Elle vient du sud, de la province de Satun, qui est le sud musulman, qui est à l'ouest, qui est différent du Deep South, qui est donc à l'est, qui est marqué par la rébellion musulmane contre le pouvoir central, qui est une rébellion complexe. Malgré tout, elle est marquée par cet islam, on y reviendra, mais elle est marquée par cet islam, et notamment par tout ce qui se passe en islam aujourd'hui, par les courants salafistes. Et donc elle est vraiment, c'est une figure, c'est un être assez exceptionnel, parce qu'elle est... Elle est marquée par par différentes contradictions, mais qu'elle vit avec une simplicité, dans une simplicité. Nous, ça nous paraît complètement contradictoire de voir une transsexuelle musulmane pratiquant, croyant véritablement, pas simplement Allah et son prophète, mais pouvant sympathiser même avec des courants qui nous semblent, qui sont d'ailleurs dangereux, qui sont dangereux pour elle aussi d'ailleurs.
Je vais te citer à ce propos. Tu écris « Au moment du Ramadan, m'explique Porn, beaucoup d'entre nous reviennent en famille et les mosquées se remplissent alors de beaux garçons très fins. C'est nous, les ladyboys, retournant au pays natal. Nous prions en hommes, nous sommes des hommes, vois-tu ?»
Absolument. Alors ça, c'est dans la cinquième partie, dans la partie de Porn qui s'appelle « Ladybar, Ladyboy ». Donc dans la cinquième partie du livre, où là, Porn parle au narrateur, donc pas à Marley, hein, mais au narrateur, et explique ça, parce que c'est très frappant. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai vu les photos, et puis je l'ai vu surtout, véritablement, quand elle se prépare à aller à la mosquée. Elle se bande les seins, parce qu'elle a des seins, donc elle a des seins avec les hormones, et donc elle se les bande, elle se les cache, et elle se cache ses longs cheveux derrière, donc dans une coiffe. Et elle s'habille complètement en homme. Bon, elle est très féminine, donc évidemment, on voit que... Mais elle va à la mosquée, donc elle prie avec les hommes en tant qu'homme. et la communauté l'accueille. L'accueille comme un retour, un peu le retour de l'enfant prodigue, c'est-à-dire que malgré ses turpitudes, parce que c'est interprété véritablement comme une turpitude, c'est un péché, hein, voilà, eh bien, ce retour fait que ce fait qu'elle montre qu'elle n'est plus une femme et qu'elle est redevenue garçon, entraîne l'acceptation par la communauté de sa présence dans la mosquée. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut creuser un peu, parce que la vérité, c'est que c'est plus complexe.
Parce que son père la battait, par exemple. Oui, il est écrit « Mon père battait les filles, enfin, mon père battait la fille dans le fils que j'étais, ma mère pleurait des coups de son mari et des goûts féminins de son fils. » C'est ce qui se passait dans la fin de l'enfance, début de l'adolescence.
Tout à fait, ouais. Oui, c'est vécu comme un désastre dans une famille musulmane. C'est déjà pas forcément bien vécu dans une famille bouddhiste. Même si le bouddhisme a une tolérance relative, parce que cette croyance populaire dans la réincarnation, populaire parce que c'est plus complexe l'idée de réincarnation, mais enfin dans la croyance populaire de la réincarnation, croyance très forte et très belle, eh bien on peut estimer que si un garçon se sent femme, c'est parce que dans sa vie précédente, et puis surtout parce que son karma est féminin, son identité est féminine, et donc voilà, il y a eu cette erreur, sans doute à cause d'une faute antérieure, mais elle cherche à retrouver son identité réelle. Donc il y a une relative tolérance. Il n'empêche que globalement, parfois c'est compliqué pour elle aussi. Mais enfin, c'est infiniment plus accepté qu'ici, par exemple. Enfin, c'est autre chose, disons. En islam, même l'islam particulier du sud de la Thaïlande, qui est l'islam de malais, c'est évidemment considéré comme une honte à la base. Mais Porn est source de revenus. Bon, déjà, elle est très belle. Donc elle frappe un peu tout le monde à cause de ça, et puis surtout elle ramène de l'argent, elle permet d'acheter des terres, elle permet de construire une maison, donc elle se fait respecter, parce que ça c'est très important, c'est le fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, entraîne une respectabilité, c'est-à-dire que même si tu aides ta famille par des moyens qui ne sont pas forcément licites, alors pas le meurtre quand même forcément, mais en tout cas la prostitution n'est pas considérée à ce niveau-là forcément, c'est pas considéré comme quelque chose de comme un métier normal ou forcément accepté, mais enfin c'est toléré, parce qu'après tout tu sors ta famille de la pauvreté, tu sors ta famille des problèmes de voilà, et surtout tu donnes à ta famille une respectabilité, car la société thaïlandaise, derrière la Thaïlande il y a l'Inde, et l'Inde c'est aussi cette idée de caste et de caste, pas simplement les quatre castes répertoriées connues, mais toutes les castes possibles, et donc toutes les dérives qui ont pu être tirées de ça. Et donc il y a des nuances qui nous échappent totalement, mais il y a des mépris entre castes, c'est plus que du mépris d'ailleurs, c'est véritablement le fait que si on est là à cette place là c'est parce que on le mérite, parce que derrière dans les vies antérieures, et même des vies qui se passent sur d'autres plans, eh bien on n'a pas fait ce qu'il fallait pour être à la bonne place, ce qui entraîne un déterminisme délirant, c'est-à-dire que si on est riche c'est parce qu'on est bien, si on est pauvre c'est parce qu'on est mauvais, dans le cas le plus extrême. Mais ces cas existent et sont omniprésents. On le voit dans la société thaïlandaise, entre le monde urbain et le monde des campagnes, par exemple. Bon. Mais donc elle est acceptée aussi à cause de ça. Et puis parce que aussi on est en Thaïlande on est dans le sud de la Thaïlande et pas forcément en Arabie Saoudite, au Qatar et a fortiori au Yémen. Elle est parfaitement consciente du fait que si elle se trouvait là-bas, elle serait tuée pour ce qu'elle est. Elle serait tuée, véritablement. Elle va en Malaisie, d'ailleurs, à plusieurs reprises. La Malaisie est considérée quasiment comme le vrai pays, finalement, par beaucoup de musulmans là-bas. Et d'année en année, moi j'ai vu que ça devenait dangereux pour elle, de plus en plus dangereux, c'est-à-dire que l'islam a changé, cet islam qui était presque, à un moment donné j'appelle ça le bouddhislam, parce que c'est vraiment marqué par le bouddhisme, il y a une sorte de, d'ailleurs son père est bouddhiste et sa mère est musulmane à la base, mais il y a véritablement une hybridation de ces deux-là dans les couches de la population, dans la manière de penser, de vivre. C'est pas simplement une hybridation entre des bouddhistes et des musulmans, c'est les musulmans eux-mêmes ont des croyances bouddhistes, et notamment Porn, par exemple, va au temple consulter des moines pour son avenir. Elle peut croire automatiquement à des réflexes autour de la réincarnation. Voilà, elle dit si tu me fais du mal aujourd'hui, par exemple, c'est peut-être parce que dans ta vie antérieure, tu m'as fait du mal. Aucun musulman ailleurs pourrait dire ce genre de choses.
Et alors cet épisode où elle va à la mosquée prier de retour chez elle et elle se redrape dans une peau de garçon m'a surpris parce que Porn affirme toujours avoir été une femme. Elle l'affirme très clairement et dans la fiction c'est tout à fait explicite. Porn a toujours été une femme.
Alors, Porn a toujours été une femme, c'est une femme. Simplement là, c'est là où nous on perçoit comme une contradiction et ça l'est. Mais elle est respectueuse d'un certain islam et donc elle va accepter d'être un homme à ce moment-là. Et elle peut tout à fait changer de point de vue quand il s'agit de l'islam. C'est quelque chose de très particulier. Elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout fascinée par Al-Qaïda, mais parfois, elle considère que, après tout, les djihadistes sont aussi des enfants de l'islam qui se battent pour l'islam. Comme tous les musulmans, elle est marquée par la prédication. C'est ce qu'on a du mal à comprendre ici. Mais un musulman, lorsqu'il convertit un non-musulman à l'islam accède au paradis, enfin gagne une place dans son paradis. C'est bénéfique pour lui. Et elle est marquée par ça. Elle cherche à convertir. Moi, voilà, plusieurs fois, elle m'a dit, elle m'a parlé de l'islam, etc. Donc, l'islam est quelque chose de très important pour elle. Et elle ne peut évidemment pas aller à la mosquée en tant que femme, parce qu'elle est née garçon. Elle ne l'oublie pas. Et c'est sans doute sa part, c'est sans doute une contradiction chez elle, mais qu'elle vit non pas forcément comme un conflit, et elle ne supporte pas qu'on lui explique ça comme un conflit. Et c'est d'ailleurs c'est en cela où les concepts que nous pouvons avoir ici n'opèrent pas forcément là-bas, déjà parce que c'est évidemment un monde autre, mais aussi parce que pour elle, ça c'est presque une injure. Si tu veux, de pointer ça comme une contradiction, comme une hypocrisie ou quoi que ce soit.
Alors parlons de la transformation de Porn. Tu écris avant l'opération, un sexe d'homme sur son corps de femme, une anomalie, une souffrance vécue comme une infirmité, subissant l'érection comme un trouble bipolaire, ce sperme étranger est pourtant jouissif à cracher. Ça, c'était avant l'opération,
Ça, c'est ce que ressentent beaucoup de transsexuels. C'est-à-dire, il y a à la fois un dégoût enfin, en tout cas, je parle pas à la place des transsexuels, mais celles que j'ai pu connaître et interroger ou quoi que ce soit, avec qui j'ai pu développer un vrai dialogue. Il y a véritablement un consensus là-dessus chez beaucoup d'entre elles. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes dès le début. Après, il y a différents types de seuils pour aller jusqu'au bout de ce qu'elles estiment être une femme. Porn incarne ces transsexuels qui ont besoin d'aller au bout enfin, ce que nous appelons au bout, parce que c'est encore une fois, c'est plus complexe que ça, mais au bout de cette démarche, d'aller au bout, d'avoir un sexe de femme. Mais il y a des transsexuels qui se considèrent comme femmes, mais qui ont malgré tout un sexe d'homme, et leur sexualité masculine avec leur pénis, en tout cas, notamment la pénétration active qu'elles font, ne pose pas de problème. Et donc, Porn, par exemple, avant cette opération, même si elle subissait ce sexe comme comme une infirmité, malgré tout, dans le plaisir, eh ben, elle bandait, et donc elle jouissait, mais elle jouissait, et elle acceptait cette jouissance. Elle avait énormément de plaisir à le faire. Donc là aussi, c'est perçu comme une contradiction. Je crois que non, c'est un moment d'un processus. Pour certaines, le processus s'arrête à la féminisation du corps tout en conservant leur sexe biologique, avec quoi elle vit. Elle appelle d'ailleurs leur pénis féminin. Elles ont en Thaïlande, elles ont des noms comme ça mais elles n'ont pas leur clitoris, voilà. Leur huge clitoris, comme elles disent, mais elles s'arrêtent là et elles le vivent bien. Et Porn, elle, va au bout du processus, par contre.
Dans La Fleur du Capital, Pan se fait donc opérer et on a tout le descriptif de ce qui, des effets que cela produit sur son corps. Je reprends notamment tout ce moment où son vagin donc a été construit et elle est obligée de se pénétrer d'un godemiché pour le garder
Oui, alors
ouvert.
bah oui, ça, ce sont des indications médicales, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quand tu as une quand il y a une opération comme ça pour éviter que ça se referme, eh bien elles utilisent un god. Et là, en l'occurrence, c'est parfois c'est même pas elles qui le font, ce sont des infirmières pour maintenir ouvert le canal créé.
Et puis, après cette opération, à plusieurs reprises, j'ai des notifications sur le fait que ces ladyboys opérés peuvent mourir plus jeunes. Je vais te citer. On dit que les ladyboys opérés meurent jeunes, affaiblis, ou bien qu'elles finissent folles. L'organisme est bouleversé, traversé de dérèglements assassins et de molécules cancéreuses.
Mais ça, alors, si tu veux, on ne le sait pas. C'est pour ça que je dis, on dit que c'est une crainte chez beaucoup de transsexuels, cette opération parfois, parce qu'il y a effectivement des bruits, et je t'avoue que c'est mon intérêt n'était pas de confirmer ou d'infirmer la chose, parce que c'est pas un livre documentaire, hein, c'est véritablement c'est autre chose, c'est une fiction, c'est une fiction sur la fiction, et Porn participe de ça. Mais oui, ce sont des bruits qui courent comme quoi, effectivement, les D-Boys opérés, ça, il y a un bouleversement hormonal. Mais sauf qu'elles prennent des hormones pour combler ça. Et le fait que certaines puissent mal tourner, devenir folles ou devenir malades très tôt, est interprété comme la preuve que le fait de se faire opérer fragilise le corps. Moi, je n'en sais strictement rien. Hein. Voilà, si je fais juste part là-dedans d'une crainte que peuvent avoir effectivement certaines transsexuelles quand elles se parlent, et notamment avant de le faire, quand elles interrogent des sœurs qui ont déjà eu cette opération. Et voilà, ce sont des questions qu'elles se posent.
On revient à Marley, amoureux, très épris de Porn, y compris quand il est de retour à Paris pour gagner l'argent qui va lui permettre de retourner à Pattaya et de continuer à vivre avec Porn. Et j'ai relevé ce passage sur très violent. Marley est en colère à Paris contre Porn parce que Porn lui écrit peu. Il comprend que Porn lui échappe. Il écrit: Après tout, il est normal que tu mentes. Tes seins et ton sexe sont faux. Comment ton corps ne le serait-il pas? Fausse à l'extérieur, fausse à l'intérieur. En l'écrivant, l'ignominie m'était apparue et la joie d'avoir touché juste, la joie de la blesser dans sa nature même.
Bon, alors déjà, toutes ces figures, si tu veux, tous ces personnages, ce sont des figures, hein. Et ce sont des figures véritablement de vie, des figures de style, des figures de. Et ces figures, notamment là dans le cadre de Marley, il incarne quelque chose que l'on vit là, quand on va là-bas et qu'on revient, cette dialectique. C'est pas un voyage, hein. À un moment donné, je parle de géométrie existentielle, véritablement. Il y a une sorte d'obsession. On ne va que là-bas et on revient ici, évidemment, parce qu'on vit ici. C'est la figure du moine et la figure du débauché. Ici, on est un moine. Quand on va là-bas, on devient un moine souvent. C'est-à-dire que on se coupe de toute relation sentimentale. On se coupe de toute, de presque même parfois de relations sexuelles. Et par contre, là-bas, on est dans une certaine débauche. Donc c'est un peu cette dialectique du moine le jour et du débauché la nuit. Et c'est la beauté aussi de cette ville, c'est que ça permet aussi ça. Donc Marley incarne cet extrême-là. Hein. Voilà. Quant à ce que tu dis, ce que tu cites à la fin, il me semblait que c'était... Déjà, c'est la conséquence, si tu veux, de l'amour. Et de l'analyse, si tu veux, du roman d'analyse, si tu veux, le roman d'analyse des passions, l'analyse des. Là, lui, Marley, incarne un peu cette figure de l'analyse permanente de lui-même. Il se regarde beaucoup aimé. Et dans ce regard amoureux, là, l'analyse, entre guillemets, porte sur quelque chose qui est terrible, qui est l'analyse de l'autre pour, mais qui est propre à toute passion, c'est qu'à un moment donné, la saleté le participe de l'amour, c'est-à-dire qu'on salit l'être que l'on aime, on lui fait mal, et ça participe de ça. Et c'est quelque chose que je trouve assez passionnant à explorer, cette volonté de salir l'être aimé, et tout en l'aimant, tout en l'adorant. C'est quelque chose qui arrive, voilà, qui arrive facilement à Pattaya. On passe évidemment d'un extrême à un autre. Il n'y a rien d'équilibré, il n'y a rien de... Souvent le réel est synonyme d'un certain équilibre dans une certaine idéologie, etc. Et là, non, le réel est totalement pulsionnel.
Parce que pour Marly, et on terminera là-dessus avec dans la relation avec Marly et Porn pour aborder le thème de la littérature. Il y a Marly, c'est cette première phrase du livre. Marly pourrissait lentement dans la fiction que les autres se faisaient de lui. Et tu utilises le terme fiction, tu l'utilises à escient justement. La fiction que les autres se faisaient de lui. Parce que tout ce que va vivre Marly à Pattaya peut être vu comme une immense fiction, comment faire fictionner sa vie, comment rendre de l'intérêt à sa vie. Marly se faisait horriblement chier à Paris.
Oui, enfin, c'est-à-dire que cette première phase, c'est vraiment un programme, mais c'est un jeu sur aussi, c'est donner des signes de ce qui va se passer par la suite. C'est évidemment un rapport à l'autre, le fait que cette banalité crasse qui veut que finalement nous ne sommes que une image de ce que l'image de ce que les autres se font de nous. Donc il y a cette évidemment et ce pourrissement, c'est une sensation que Marly possède, c'est-à-dire qu'il n'est jamais il n'est jamais lui-même, il n'est que la fiction que les autres se font de lui. Et là, il y a un phénomène de pourrissement. Alors oui, Marly se fait chier à Paris, effectivement. Sans doute, là, j'ai voulu insister sur le fait qu'il y a une sorte de perdition, de perte de Paris, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une raréfaction du vécu français, ce que j'appelle la raréfaction du vécu français, un enfermement dans des idéologies, quelles qu'elles soient. Et cet enfermement fait que, quel que soit ce qui se passe, le discours va primer sur finalement la description, sur véritablement la description au sens où Claude Simon utilisait la description, c'est-à-dire que au flux et même à d'autres choses. Alors plus qu'on quitte Claude Simon, même si c'est aussi il y a du ressenti chez Claude Simon, mais à toute cette dimension sensorielle, si tu veux. Et Paris est une ville qu'on a beaucoup qualifiée de musée, effectivement. Mais c'est une ville où le discours prime beaucoup sur le reste, et on y vit peu de choses. En Thaïlande, c'est l'inverse. Il y a quasiment pas de discours, très peu, mais il y a une volonté de vivre. Les Thaïs utilisent un mot qui s'appelle sanuk, qu'on traduit par fun, le fun. En fait, c'est plus complexe, c'est la joie dans ce que l'on fait, le plaisir, mais pas au sens de petit plaisir bourgeois, pas les jouisseurs dénoncés par Céline. Le plaisir au sens plein de l'être, au sens divin. C'est une chose qu'on ne comprend pas forcément ici, mais le divin est très important, la notion de divin. De spiritualité, l'imbrication permanente du spirituel avec l'ordinaire, voilà. Et donc Marly, allant là-bas, redécouvre finalement ce qui est en chacun de nous, c'est-à-dire cette aptitude spirituelle réellement. Je dis pas forcément de croire en Dieu ou de quoi que ce soit, mais cette espèce d'élargissement d'intuition qui est sans doute peut-être aussi une fiction, je n'en sais rien, mais pas plus que les couleurs, après tout, qui sont aussi une interprétation de fréquences lumineuses et qui peuvent varier en fonction des organismes. En tout cas, c'est cette véritable redécouverte d'une vitalité, d'une lumière, d'un lux, d'une lumière intérieure, mais qui s'extériorise, d'une acceptation de son être comme être sensoriel, non pas forcément sans morale ou sans, mais qui ne laisse pas le discours ou le prêche empiéter sur ses capacités organiques à vivre, et ces capacités organiques, c'est pas simplement de la chair vide, c'est véritablement de la chair comme correspondance de quelque chose d'autre, peut-être, qui se passe sur une autre, sur d'autres plans, sur d'autres dimensions. Mais ça, c'est très lié à l'Inde, c'est très lié à tout ce que l'Inde est sans doute, avec le judaïsme, mais autrement, mais l'Inde est sans doute le dernier lieu où il y a une filiation directe avec ce qu'était le monde, notre monde, par exemple, dans l'Antiquité, c'est-à-dire un monde où les dieux coexistaient, mais les dieux ne sont que des manifestations d'un être. Dont on ne peut même pas dire le nom, puisque dire le nom serait déjà le trahir. Donc oui, par rapport à tout ça, là, parce que là, on a l'impression qu'on s'éloigne, mais non, c'est qu'on est très loin de Paris, des discours et de l'idéologie, oui. Donc oui, il se fait chier, oui. Il se fait chier, il se fait chier dans les vide-bars, il se fait chier même dans cette espèce de cette législation obsessionnelle du monde physique, qui est le propre de nos sociétés actuelles, ce puritanisme terrifiant qui consiste à légiférer le monde physique et à totalement absolument pas légiférer tout ce qui est du domaine de la dématérialisation, si tu veux. Donc
Et ça, Pattaya, ce dont tu viens de nous parler, cette découverte par Marly, mais ça peut être aussi la découverte du scribe, on n'en a pas encore parlé du scribe, qui est un personnage double un peu assez proche finalement de Marly, par une ambition qui a une ambition littéraire, c'est aussi pour ça qu'il s'appelle le scribe. Il y a cette phrase que j'ai relevée, si un écrivaillon se pointait à Pattaya, la réalité qu'il découvrait dépassait toutes les fictions. Pattaya dépasser toute littérature.
Oui, bah on revient à ce que je disais au début, alors je ne veux pas me répéter, mais c'est vrai que Pattaya apparaît comme véritablement une fiction, ne serait-ce que dans sa géographie, plutôt dans son urbanisme. Cette typologie de bars, de boîtes de nuit, de gogo-bars, de filles qui se vendent, ici c'est présenté comme terrifiant, comme horrible, comme marchandisation des corps, et là-bas c'est pas vécu du tout de la même manière. Ça ne veut pas dire que c'est vécu forcément comme quelque chose d'absolument joyeux en permanence, etc. Mais enfin, en tout cas, c'est vécu comme moins terrifiant que travailler en usine, par exemple, les usines où l'on construit notamment nos iPhones, nos voilà. Donc, c'est toujours assez paradoxal de voir d'un côté une dénonciation de la prostitution, tout en une dénonciation d'ailleurs même jusqu'au bout à des produits high-tech, alors même que on les possède. Voilà. Donc, c'est ce que je cherchais le mot tout à l'heure, mais c'est dérégulation, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cette dérégulation des univers dématérialisé, ou du moins une relative dérégulation, parce qu'il se trouve que la régulation est en train de se mettre en place, mais enfin pas forcément au bon endroit, en tout cas pas dans le domaine forcément financier. Et puis de l'autre côté, il y a une hyper-régulation des corps, et quand les corps se marchandent, ça reste du cash. On n'est pas dans le, on est dans la, on est dans la, dans le cash, que ce soit sous forme de billets ou sous forme de matière, hein, de l'or, de l'argent, d'éther, voilà. Il y a une certaine honnêteté dans cette démarche, une certaine visibilité, il y a un rapport humain qui n'existe pas dans la dérégulation financière, par exemple, qui est pourtant ruine des pays entiers, ruine des couches de population, ruine des familles, quelle que soit d'ailleurs la classe à la base, où elles appartiennent, enfin bref. Et bien là, non.
Et Pattaya, c'est la ville dont toi, écrivain, Jean-Noël Orengo, va y trouver le lieu de toutes les fictions.
Oui, voilà, on
C'est
revient à ta
le
question.
lieu de la grande fiction. En allant là-bas, parce que on peut parfois s'interroger si il n'y a pas un peu de toi dans Marly ou dans le Scribe, écrivain sans œuvre, écrivain désœuvré. Et tu découvres en Pattaya le lieu possible pour établir une grande fiction, un ensemble de grandes de littérature. Quel effet Pattaya peut faire sur la fiction générale et plus particulièrement sur la littérature? Parce que Pattaya t'a fait un effet en tant que écrivain, en
Alors
tant que personne
c'est une immense question.
qui crée de la fiction.
Oui, c'est une grande question, c'est une immense question, parce que il y a plusieurs façons d'y répondre, et puis surtout c'est particulier. Bon, j'avais pas répondu forcément au fait que oui, Pattaya est effectivement une mine d'or pour n'importe quel auteur. parce que, encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est le miroir au fond de tout ce qui nous intéresse en littérature, et même au-delà, parce que c'est un lieu où la littérature dite de genre, moi j'aime pas trop ce mot, mais enfin après tout, si, la littérature dite de genre, la littérature policière, il trouve son compte largement, etc., etc. Donc oui, c'est une mine d'or pour l'auteur. Moi, ça a déclenché quelque chose. Tu pars de mon parcours d'écrivain sans œuvre. C'est vrai que j'ai commencé à écrire des petites chroniques sur la poésie contemporaine il y a longtemps. Et comme beaucoup d'entre nous, j'avais envie j'avais cette volonté, plutôt la volonté d'écrire, bon qu'à ça, comme disait l'autre. Et évidemment, avec un malaise certain dans les différents emplois que j'exerçais, parce que j'avais une sensation d'imposture, enfin bref, qui est celle de Marley au fond, qui n'est pas à sa place, tout en y étant et tout en faisant tout pour y être, parce que c'est le moyen de gagner sa croûte et d'aller là-bas. Mais en tout cas, effectivement, j'étais pris dans des lectures qui étaient contradictoires au fond, je ne savais pas où me positionner, j'étais à la fois fasciné par. Enfin, plus que fasciné, j'étais lecteur et lecteur patient et décortiqué les œuvres du nouveau roman et de Claude Simon en particulier et Claude Ollier, le jeu d'enfant notamment, essentiellement d'ailleurs. Claude Simon. Et de l'autre côté, effectivement, j'étais aussi le lecteur de Saint-Simon, de Céline, et c'est complètement autre chose. Alors entre les deux, il y a peut-être Proust qui peut servir de tampon, mais enfin globalement, ces lectures contradictoires faisaient qu'à un moment donné, j'étais plutôt dans la contrition, à toujours commencer des choses que je n'arrivais jamais à finir. Au fond, j'étais hyper formaliste. Je suis très sensible à la musicalité des structures. Et en arrivant à Pattaya, j'ai rencontré un flux qui, parce qu'il était fictionnel, permettait de raconter des choses et de raconter des histoires. C'est-à-dire de ne pas forcément être dans cette permanente dialectique, est-ce qu'on soumet la forme à l'histoire, ou est-ce qu'on soumet l'histoire, ou l'inverse, tu vois. C'était ni récit d'aventure, ni aventure du récit, mais une espèce d'hybridation, de... ni langage de l'aventure ni aventure du langage, pour parodier Dubrovski comme auparavant j'avais parodié Ricardou, mais plutôt cité parce que c'est pas une parodie, ils ont dit ça. Dubrovski, on parle souvent de Dubrovski on cite souvent Dubrovski sur l'autofiction, mais on oublie la suite quand il dit confier au langage de l'aventure l'aventure du langage, et Ricardou dit substituer au récit d'aventure les aventures du récit. Mais cette espèce de clivage là-bas n'existe, en tout cas tel que moi je le percevais, d'un seul coup ça fonctionnait plutôt comme un échange permanent entre les deux. Et de fait, je pense que c'est l'aspect de ce livre, en fait, qui est à la fois un livre véritablement sur la prostitution, où le contenu est très important, mais enfin l'intérêt de la prostitution, c'est que ça joue beaucoup sur la fiction, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces filles vendent des fictions. Ce sont des conteuses hors pair, ce sont réellement, alors là pour le coup, encore une fois, c'est-à-dire la littérature trouve une incarnation fabuleuse, mais ce sont des Scheherazade, c'est-à-dire que chaque client est le roi du moment, parfois souvent malmené d'ailleurs comme roi, mais un roi, et elle raconte ça, elle les fascine, et de manière à ce que la nuit suivante ça recommence et que l'argent continue à rentrer sans cesse, comme Scheherazade cherche à sauver sa vie, elle va chercher à transformer sa vie, changer sa vie, transformer son monde, là-bas c'est ça. Et donc à Pattaya j'ai rencontré, ça a débloqué quelque chose, je pense, ça m'a débloqué littéralement. Au niveau de l'écriture, ça m'a montré que le réel n'était pas prisonnier du réalisme. Ça m'a surtout fait comprendre le pourquoi de la sidération et de la fascination que j'avais pour Sade, et notamment pour ce que dit Sade de la nature, toujours majestueuse dans ses effets, etc. Mais il ne s'agit pas d'en faire un traitement réaliste. Il s'agit d'en faire un traitement artistique au sens où le XXe siècle, c'est pour ça que la quatrième partie du script s'appelle Fabriquer au XXe siècle, c'est qu'au sens des moyens autonomes de l'art, ben, on peut on peut appréhender le réel, on peut le retranscrire, on peut le. Il y a des livres qui traitaient de réalité, comme le USA de Dos Passos, et qui n'ont absolument rien d'un traitement réaliste. Voilà. Donc ça a été véritablement à la fois cette joie et en même temps ce sacerdoce de pouvoir le faire, parce que ça prend du temps, évidemment, et de quitter cette espèce d'artiste sans œuvre qu'est Marly pour le scribe, qui s'appelle scribe, évidemment, parce que là, il n'y a rien à inventer. Encore une fois, je suis très en retrait par rapport à cette opposition entre par exemple, le réel et l'imaginaire. Bon, c'est très artificiel au fond. Il n'y a que des moyens de, il n'y a que le style au fond, et à partir de là se déroule plein de choses. Et le réel est de toute façon toujours, le réel est de toute façon sidérant. Ce qui est merveilleux dans une aventure du langage comme celle qui est la nôtre. En tant qu'auteur, c'est de pouvoir vivre des choses, de pouvoir rencontrer, de pouvoir véritablement ne pas dépendre d'une idéologie quelconque. C'est toujours triste de voir finalement l'écriture se réifier dans des idéologies, dans une thèse au fond, dans la thèse. Rien de pire que le roman à thèse. Ce qui compte, c'est la langue, c'est d'être dans la langue. De retrouver alors nous c'est la langue française, c'est pas une question nationaliste si tu veux, mais c'est très important d'être dans la langue française, d'avoir les harmoniques du français. Les harmoniques du français, ça s'apprend par Saint-Simon, par Céline, et surtout par la poésie aussi de toute la grande poésie du 16e, du 15e et d'avant, enfin tout ce français, cet ancien français, cette souplesse du français. Et puis à partir du 17e, ça devient autre chose, mais Saint-Simon est là pour justement un peu casser tout ça. Sade le fera aussi à la fin du 18e, et au 19e c'est plus compliqué, mais au 20e on retrouve ça avec Céline, avec Beckett, avec d'autres aussi. Avec la poésie sonore, avec la poésie visuelle, avec voilà. Et donc, en tout cas, par rapport à Pattaya, ça m'a. Alors, j'en fais peut-être trop un symbole, mais non, je pense que non. Je pense que j'en fais pas trop. Je pense que la plupart des auteurs, quand ils vont là-bas, ont cette espèce de peuvent avoir cette sidération sur ça. Mais encore une fois, il faut à un moment donné abandonner tout cet attirail. Étranger, l'attirail des sciences humaines, étranger au fond à la littérature. On n'est pas là. Il faut se référer toujours au discours de Stockholm, en fait, de Claude Simon, qui dit si j'avais envie d'écrire, je sais pas moi, un problème si j'avais envie d'écrire sur un problème de société, je ferais un livre de. Je n'ai plus la citation exacte en tête, mais enfin, en gros, il ferait un traité de morale, ou il ferait un livre de philosophie, un livre de sociologie, j'en sais rien, moi. Il ferait pas du roman, il ferait pas de la poésie, il ferait pas de. Voilà. Le propre de la beauté de ça, l'intérêt de ça, c'est d'exposer la totalité, la complexité du réel, d'accueillir la masse sensorielle du réel, et sans exclusion, sans dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est pas le lieu. C'est d'exposer par contre tout ça, quitte à exposer les idées de chacun, mais le faire sans exclusif, sans que l'auteur forcément apparaisse comme un. Voilà. Et j'ai envie de dire que lorsque Guyotat, quelqu'un qui t'intéresse plus que tout, Guyotat est dans la langue, il n'est pas dans le, il est pas dans le, il est évidemment pas dans l'explication morale de ses figures. Enfin, il est dans l'exposition totale de ses figures, qui sont des figures à la fois de beauté, d'horreur, de tout. Après, l'appréciation critique peut varier, mais en tout cas, il permet cette modulation permanente. Et cette évolution permanente, de l'affect du lecteur, du percept du lecteur.
Et là, nous sommes passés de la figure de Marly à la figure du scribe. Le scribe, lui, va faire œuvre à Pattaya. On le voit faire œuvre à Pattaya, enfin, on le lit dans le texte, ces journées à écrire, ces semaines des fois de folie d'écriture. Dans tout ce texte sur le scribe, donc l'écrivain qui va faire œuvre, cette citation, cette ville était la fiction qu'il avait toujours rêvé d'écrire sans le savoir. tout constituer un gisement de structure narrative, une usine à grâce. Et puis il y a celle-ci qui me plaît beaucoup, parce que là on va rentrer non pas dans la folie du scribe, mais de cette folie, cette grande occupation ambitieuse qu'est d'écrire jusqu'au bout, d'écrire dans ce qu'implique dans sa totalité l'acte d'écrire de la fiction. Je te cite: « La création romanesque est un viol de la nature, et il rentra dans son œuvre, le scribe rentra dans son œuvre, avec toute sa fin, et il rentra dans sa probité. » Ce terme est très très fort. Il rentra dans sa probité. Un terme de probité qui serait propre à l'écrivain, au créateur de fiction. C'est rare de trouver accolé ce terme-là de probité. On l'emploie plutôt de probité morale pour d'autres professions. Dans beaucoup de professions, il faut une probité, notamment ce qui touche à l'argent. Mais là, dans une profession qui n'est pas une profession, mais pour quelqu'un qui fait acte d'écrire de la fiction, on ne trouve absolument pas ce terme de probité à coller à ce qu'il fait.
Alors c'est d'autant plus, c'est un très beau passage, c'est d'autant plus beau que ce n'est pas de moi en fait, plutôt c'est légèrement décalé, c'est de Monterland. En fait ça c'est un des souffleurs qui souffle quand, parce que Scribe lui aussi comme Marly utilise les biographies des autres, lui pour s'aider quand il ne sait plus quoi écrire sur ce qu'il veut écrire, eh bien il pompe allègrement dans les textes des autres, et c'est un texte absolument sublime sur l'écriture que j'ai pris donc dans Monterland, dans Les Jeunes Filles, le cycle des Jeunes Filles de Monterland, avec ce personnage de Costal, l'écrivain, et qui a ce passage où il dit qu'il écrit de telle heure à telle heure, tant de jours, et puis il s'arrête et il chasse la femme, et il a des aventures ou pas, etc. Et donc je l'ai décalé à Pattaya, j'ai modifié certaines choses mais c'est pas une coquetterie, c'est véritablement parce que c'est là aussi le fait que Pattaya, d'un seul coup, tout ce qu'on a lu précédemment s'incarne réellement dans ce que l'on voit. Et donc là, oui, le quotidien de l'auteur à Pattaya, c'est ça, c'est-à-dire que pendant des jours et des heures, on écrit, on est enfermé, etc., puis d'un seul coup, on sort, mais là où on sort à Paris, où il y a une certaine déception par rapport à la boulimie qu'on peut avoir de rencontres, il y a enfin, je sais pas si tout le monde n'est peut-être pas comme ça, mais enfin, il y a une sorte de merveille à rencontrer des tonnes et des tonnes de gens, et de rencontrer des notamment, tout dépend de la sexualité qu'on a, mais de rencontrer des femmes, voilà, et donc Pattaya permet ça. Et là, ce texte de Costal qui fait preuve d'une vitalité extraordinaire, c'est l'inverse du nihilisme. Moi, je tiens beaucoup à être absolument pas nihiliste, en tout cas, et d'être dans l'affirmation permanente. Et bien là, ce texte-là était véritablement adéquat pour traduire ça. Mais alors, Scribe, il incarne une chose très forte, et je pense que il incarne véritablement une figure spirituelle aussi de l'écriture, qui est cette concurrence. Et ça, c'est le projet mallarméen, un projet orphique, qui est face à ces dimensions qui nous entourent. Gigantesque, cet univers, etc. C'est l'idée de concurrencer le temps de sa vie minuscule, qui n'est rien, qui est une tête d'épingle, cette espèce de mégalomanie, et en même temps à la fois absurde et en même temps assez belle, de concurrencer un peu cet univers, ces distances, cette quantité, de le concurrencer par une quantité au moins aussi forte symboliquement. Alors, je pense que ce livre fait 800 pages parce que aussi, c'est un pavé, c'est un corps. Moi, je crois beaucoup à l'idée de règne scriptural, comme il y a un règne minéral, végétal, etc. Je pense qu'on peut créer des êtres scripturaux qui sont des organismes. De là, le fait que ce livre est divisé en plusieurs organes particuliers, c'est pas simplement des chapitres, mais ça emprunte à la figure du théâtre, mais il y a cinq actes divisés en cinq scènes, mais entre chaque scène, il y a des intermèdes, entre chaque acte, il y a des entr'actes, il y a des rideaux qui précèdent. À l'intérieur des scènes, il y a des parties qui, en fonction des personnages, s'appellent coulisses, s'appellent répétitions, costumes, etc. Bref, c'est une machine, certes, mais c'est un organisme surtout, plus qu'une machine de texte, c'est une... Oui, je l'ai voulu comme une sorte de... Voilà, d'organisme. Il a sa vie propre, il a son souffle. La langue est là pour créer la pulsation sanguine. Mais... Et Scribe est marqué par cette figure-là, enfin, en tout cas, par ce type de croyance. Le fait que l'une des missions, l'une des beautés de la littérature, c'est effectivement de concurrencer ça.
Et il en fait cet art... Il en fait une manière de conduire sa vie. Il y a toujours cette question, qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que la fiction ou la pratique de la littérature fait à notre vie? cette volonté de faire littérature, cette volonté de faire art, a pour conséquence, pour effet, en tout cas pour le scribe, mais on l'imagine aisément aussi pour toi, Jean-Noël Orango, un mode de vie.
Ah, totalement. Pour moi, c'est un mode de vie. J'ai envie de dire presque un sacerdoce, mais bon, c'est peut-être une figure un peu. Mais oui, l'existence est soumise à ça, est soumise à l'acte d'écrire, est soumise à ce rythme-là, à cette très très simplement chaque jour lire comme le sportif fait son entraînement. Lire, c'est notre entraînement, c'est se remettre tous les jours dans le bain du français, lire, donc pas forcément tout lire, mais lire beaucoup, et surtout lire tous les jours un certain nombre d'auteurs qui sont les grands auteurs de la langue française, c'est évidemment se préparer à sa propre écriture. On est au-delà du fantasme du grand écrivain ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, c'est véritablement une nécessité biologique. En fait, il y a dans la lecture, au-delà du plaisir du texte ou quoi que ce soit, il y a véritablement cette nécessité de retrouver de retrouver le chant, de retrouver la musique. Et donc ça plie la vie. Et oui, moi-même, alors scribe, évidemment, celui a fait ça, puisqu'il part à Pattaya et il se consacre à ça. Avec, encore une fois, je reviens parce que c'est une figure importante, mais dans cette idée de concurrence, par exemple, c'est un copiste, et donc plutôt que d'inventer, bah, il n'a qu'à copier. Et avec cette, j'ai pris beaucoup de plaisir à calculer le nombre de pages nécessaires si on mettait bout à bout les pages au mètre carré, combien ça ferait par rapport au kilomètre carré à Pattaya, et même c'est étendu à la planète entière à un moment donné, c'est-à-dire que si on mettait des feuilles partout, genre je ne sais plus le nombre exact, mais c'est évidemment, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces séquences-là, à calculer le nombre de pages nécessaires pour couvrir toute la planète, et à imaginer que toutes ces pages seraient écrites et ne seraient que l'écriture de la copie de ça, du réel. Et évidemment, il faut rajouter d'autres parce qu'il y a les volumes, et puis il y a tout ce qui se passe aussi, les pensées qui peuvent échapper à simplement la stricte nomination géographique et descriptive des lieux, etc., etc. Donc cette surenchère, au fond. Alexandre Zinoviev, qui est un auteur russe, soviétique, qui était parti du nom soviétique, un dissident, mais malgré tout soviétique. L'écriture de l'Homo Sovieticus avait des figures comme ça où il disait à un moment donné il nous faut calculer l'ensemble des variantes possibles de tel comportement social, 10 millions de pages suffiront, une bagatelle, voilà. Bon, et ça c'est très 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 beau. Je pense que c'est à un moment donné l'auteur est marqué par ça.
Parce que ce qui t'intéresse dans La Fleur du Capital, c'est la description. À aucun moment,
totalement,
il y a une apologie de la prostitution.
Non.
À aucun moment, il y a le moindre jugement.
Ni dépréciation,
sur,
d'ailleurs.
Le mode de vie aussi bien des Parisiens qui y vont, des Occidentaux qui vivent là-bas, comme Kurtz, on n'en a pas parlé encore, Kurtz l'Américain. Ni de jugement sur les populations locales de Pattaya, ni sur les prostituées, ni sur les ladyboys. On n'est absolument pas dans un jugement. On est dans la description, dans ce que peut opérer la littérature, c'est-à-dire une description par la langue de ce qui se passe, des émotions qui étreignent différentes figures, les différentes personnes.
Exactement, et absolument. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas un romancier explicatif, je suis un romancier descriptif d'abord. Et je ne laisse pas, encore une fois, on revient à ce qu'on disait sur l'idéologie primer sur le reste, c'est-à-dire que c'est l'intérêt de notre art, c'est de cette dictature, cette folie d'écho de la causalité, comme si la cause allait montrer ils sont prostitués parce qu'ils sont pauvres, ils sont clients parce que c'est des frustrés, parce que non, le réel ne résiste pas une seconde à cette il suffit de s'asseoir dans un bar à Bangkok ou à Pattaya pour voir que tout ça, ça vole en éclats dans la seconde, si on est relativement honnête et si on laisse de côté la peur qui est pour le coup tout à fait naturelle et qu'on le ressent la première fois qu'on arrive là-bas, une fascination et en même temps une peur parce que ça remet en cause tout ce qu'on sait. Donc oui, ça nous met face à l'art. Alors pour le coup, encore une fois, ça nous remet face à l'art. C'est l'inverse de l'explication, de la thèse. De quoi que ce soit d'ailleurs.
Et c'est pour ça que La Fleur du Capital prend en charge la littérature française, parce qu'on y trouve beaucoup la littérature française. Alors on trouve d'autres auteurs qu'on peut relever, notamment un auteur qu'affectionne particulièrement le scribe, qui est Hubert Selby Jr. Oui. Par Last Exit.
Oui, bah lui, c'est presque une exception.
Mais néanmoins, c'est essentiellement la littérature française et son héritage qui est pris en charge dans ce livre-là.
Oui, c'est la fuite des mots à l'étranger. C'est ce que je dis à la fin du prologue. C'est la fuite des mots. On parle beaucoup de la fuite des cerveaux, mais c'est la fuite des mots à l'étranger. C'est-à-dire que face à la raréfaction du vécu français, la langue française s'appauvrit. C'est ça, c'est curieux d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est le démenti total d'Heidegger qui. Je sais que je vais m'attirer des foudres parce qu'on va me dire tu ne comprends pas Heidegger, mais quand Heidegger lit la langue à la terre, oui, certes, c'est plus complexe que ça. Il se trouve que la langue française s'appauvrit si on s'en reste au vécu français. Et par contre, si on l'emporte avec soi ailleurs et qu'on l'élargit, là, d'un seul coup, on retrouve la langue française dans toute sa puissance, en fait, dans toute sa souplesse, et dans toute sa, parce qu'on quitte le cadre idéologique, la maladie de l'idéologisation permanente de tout dans ce pays, cette impasse, ce cul-de-sac qu'on voit aujourd'hui dans les débats autour de ce qui s'est passé le 7 janvier par exemple. Eh bien là-bas, on retrouve cette souplesse, cette capacité sensorielle réellement, qui n'est pas anticonceptuelle, hein, c'est pas, mais qui justement est le stade qui, à partir de quoi on peut penser des choses.
Et cette littérature, cette prise en charge de la littérature, cette fiction, on comprend bien maintenant pourquoi ça ne pouvait être que dans ce lieu. Pattaya, bon, peut-être il doit y avoir aussi d'autres lieux dans le monde de la sorte, mais que dans un lieu de dépense extrême.
Ça c'est Kurtz, ça c'est la figure de Kurtz notamment, effectivement.
Le lieu de, oui,
de dépense totale, alors
dépense bien entendu financière, mais dépense aussi morale, dépense affective, un lieu où
mais c'est pas la
personne va y effectuer les dépenses la plus extrême jusqu'à presque la folie ou presque le plus complet dénuement.
Je suis d'accord avec toi, simplement. Alors le problème de cette notion de dépense, c'est qu'elle elle dépend d'un champ conceptuel où il y a une critique qui se passe, c'est-à-dire une critique implicite, si tu veux, de la dépense, parce que la dépense c'est capitaliste, etc., etc. C'est plus le corps est plus complexe que l'échange corporel, quel qu'il soit, les échanges et surtout là-bas, la prostitution est plus complexe que l'analyse capitaliste ou que l'analyse marxiste. Etc. On est vraiment dans quelque chose, je sais pas comment le nommer, mais enfin, d'ailleurs, il faut pas le nommer en une seule fois, si tu veux, mais c'est presque infraconceptuel, si tu veux. Kurtz est un peu ça. Alors Kurtz, la figure de Kurtz, qui évidemment c'est le pseudo emprunté au Kurtz du Cœur des Ténèbres et d'Apocalypse Now, mais Kurtz c'est un peu cette figure du punter, c'est-à-dire véritablement du client qui est dans le fuck and forget, qui baise des putains et qui veut en baiser un maximum et qui veut en rencontrer un maximum. Qui est sans illusion, mais dans une posture amoureuse aussi à sa façon, de ses noces précaires. Il vit dans la noce précaire permanente. Et il a cette espèce de survoix qui véhicule avec lui, en fait, tous ces clichés autour de. Tous ces clichés idéologiques qui consistent à sans cesse donner des causes, à sans cesse expliquer la chose par une cause et pas une autre, et qui est sans cesse dans la réduction du réel, en fait, pour le confort des discours, pour le confort véritablement, en fait, quasiment de l'existence même d'une civilisation normée. Lui, Kurtz, il a cette survoie qui reste avec lui, qui entraîne d'ailleurs sa perte, au fond, dont il cherche sans cesse à se démarquer. Je pense que lui, c'est une figure véritablement aussi de la réaction, c'est-à-dire que c'est véritablement quelqu'un qui n'a pas su couper les amarres. C'est quelqu'un qui reste paradoxalement en course, qui est même le course du cœur des ténèbres, c'est quelqu'un qui porte en lui le poids du jugement permanent, évidemment. Et donc, il a transporté avec lui tout ce qu'il refuse par ailleurs dans sa vie, dans sa vie physique, dans sa vie sociale. Et donc, cette notion de dépense, oui, mais pas entourée de cette dénonciation de certaines formes de la dépense, de cette économie du désir.
Je pensais notamment à la dépense de la part maudite de Georges Bataille, par exemple.
Oui, bah bien sûr, bah ça, de toute façon, la dépense est intrinsèque à à l'œuvre de Bataille. Mais
Surtout liée à la prostitution.
oui, bien sûr, bien sûr.
Mais pourtant, j'ai l'impression que. Enfin, je n'y ai pas vu de citation de Bataille, je n'ai pas vu de
Non, parce que
Bataille
je suis
nommée.
pas,
Et
je suis pas.
je me t'ai dit que peut-être que Georges Bataille était. Une référence cachée du livre,
Non, je vais te dire
mais
non.
en tout cas, je l'ai trouvé cette absence de Georges Bataille, je l'ai trouvé suspecte. Je me suis dit qu'il y avait peut-être là quelque chose à chercher de ce côté-là sur pourquoi cette absence.
Écoute, pourquoi cette absence? Parce que j'y trouve. Finalement, je suis pas un grand fan de Bataille. C'est aussi simple que ça. Je suis pas un grand fan de l'œuvre de Bataille. Et pourtant, pourtant évidemment, tous ces thèmes me passionnent. Mais c'est peut-être la façon de le formaliser. C'est peut-être le fait de le conceptualiser. C'est peut-être la façon dont il le conceptualise. Et je pense qu'il laisse échapper beaucoup de choses dans la conceptualisation qu'il donne de ce dont il parle, et notamment du désir, notamment sur l'idée de transgression. Je ne suis pas sûr que l'idée de transgression soit réellement opérante là-bas. On ne transgresse pas, le but n'est pas de transgresser des normes, le but est d'exprimer au maximum la puissance de la nature. Donc qu'il y ait transgression, pas transgression, c'est plus le problème. On n'est pas là pour. Bataille est quand même, dans l'impression, prisonnier d'une classe dont il cherche à s'échapper. Et du coup, ça conditionne une partie, une grande partie de son œuvre, et notamment le discours qu'il produit. C'est au-delà de son œuvre romanesque ou nouvelliste, au-delà des récits plus exactement, il y a véritablement une œuvre d'essayiste, mais pas d'essayiste à la Montaigne, d'essayiste plutôt proche, quasi universitaire au fond, qui ne marche pas, enfin, qui me semble une réduction permanente. Moi, j'en reste à Sade à ce niveau-là.
Parce que chez Bataille, il peut y avoir encore cette idée de vieille honte, et c'est
Oui,
lié
la
à la
honte, mais
transgression,
qui, il a raison en plus. C'est-à-dire
alors
que.
que les figures.
Mais ça m'intéresse pas, moi.
Oui,
Les filles là-bas n'ont pas honte, il n'y a pas de
exactement.
honte.
Et les
Je veux dire.
figures aussi bien de Marly, du scribe,
Ouais.
n'ont aucune
Aucune.
honte
Bien sûr.
pour ce qu'ils vont effectuer en action à Pattaya.
Au contraire, ils
Par
sont même.
contre, Marly, il y a plusieurs annotations, quand il revient à Paris, comme quoi il subit un mépris.
Oui, et je pense qu'il subit la peur qu'il suscite. Parce que quand on parle réellement de ça, on suscite la peur, on suscite l'interrogation, on suscite l'incrédulité, on suscite la révolte quand souvent parce que ça remet en cause un certain nombre de choses, ça remet en cause un confort idéologique. Ça serait tellement simple qu'il y ait des méchants et des gentils. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais enfin globalement c'est plus complexe que ça. Et notamment sur ces questions de mœurs, ce qui est fou, c'est que je peux comprendre encore sur des questions politiques, mais sur des questions de mœurs, c'est très complexe, les gentils et les méchants. Et donc il suscite effectivement ce mépris, mais qui est plutôt là pour le coup le résultat d'une peur, d'une sidération, d'une crainte initiale, voilà. Et il remet en cause beaucoup de choses quand même. Et donc, il n'y a aucune honte, effectivement. Il y a aucune. Il y a même autre chose. Il y a une revendication du statut de punter comme étant une figure d'affirmation de l'être, comme étant une figure d'affirmation vitaliste de l'existence contre sa négation, contre la négation de l'existence qui ne serait qu'une existence régulée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de règles. Il n'y a pas d'anarchisme. Si tu veux. Au contraire, le milieu de la prostitution est hyper régulé. Et les victimes sont souvent les reines. Une des filles disait, nous sommes une démocratie de reines. Les filles là-bas sont. C'est une ville de femmes, c'est une ville féminine. C'est la Shakti, le pouvoir féminin, qui c'est très très fort. Mais dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la féminité féminine, la féminité virile, la féminité, peu importe, la femme dans toutes ses, dans la femme règne là-bas. Et donc la honte n'existe pas, même si, alors pour le coup, pour revenir à Bataille, oui effectivement, la honte peut être une source de plaisir. Bon, voilà, mais c'est vraiment pas le sujet. Enfin, j'ai envie de dire. Et bon, si ça peut être une source de honte, bah, c'est tant mieux, très bien. Si les gens ont du plaisir avec ça, c'est très bien. Mais là-bas, le plaisir n'est pas dans la honte qu'on s'inflige à soi-même. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, mais les pratiques sadomasochistes n'ont pas du tout la même valeur là-bas qu'ici. Souvent, les Thaïs trouvent ça assez ridicule. Non pas qu'il n'y ait pas de rapport dur parfois dans les rapports sexuels, mais ce côté. Voilà, n'est pas le, y a un décalage, il y a un jeu, mais pas ce jeu presque sérieux, presque ce jeu mélodramatique des milieux SM ici. Là-bas, c'est vraiment dire, putain, c'est un peu con, mais. Et donc, c'est assez curieux. Alors là, pour le coup, je veux pas juger non plus. Hein. Je veux pas dire que ici c'est ridicule, et alors que là-bas, c'est parce que justement ça met en avant un aspect ridicule, c'est mieux. Mais c'est un vrai ça en dit long sur la conception de la sexualité, par exemple.
Je voudrais qu'on en termine avec cette histoire de honte qui m'a beaucoup préoccupé à la lecture de La Fleur du Capital, parce que pour ton premier grand livre,
Mon premier livre, hein.
voilà, mais
J'en ai pas fait d'autres.
voilà, pour cette grande œuvre qu'est La Fleur du Capital, elle s'occupe tout de même des actions du tourisme sexuel, c'est au cœur même de l'ouvrage. Sans aucunement le dénoncer, plutôt même en l'aimant, en le pratiquant,
Formellement, non, en le montrant.
en le montrant du moins.
C'est pas l'aimer, je.
Or, c'est quelque chose qui, à nous, occidentaux, du moins français, nous fait honte, y compris peut-être dans une forme d'expression littéraire
Mais c'est
ou
normal.
plutôt élevée de haute teneur de langue.
Mais parce que le tourisme sexuel, tel qu'elle est catégorisée, effectivement, c'est une catégorie de la honte. Un touriste sexuel, si on en reste à ce qu'on nous en dit, c'est pas forcément une figure positive. Je veux pas, là encore une fois, je veux pas non plus juger parce que, sauf que la plupart, le tourisme sexuel ne fonctionne pas comme ça. Ou plutôt, c'est un concept quasiment sociologique, mais ce n'est pas le bon mot pour qualifier ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, c'est des histoires de baise, c'est des histoires effectivement de sexe obtenu par l'argent qu'on possède. Quand on en a, on peut. Quand on n'en a plus, on pense qu'on ne peut plus, mais en fait, non. Il y a plein d'étrangers là-bas qui vivent quasiment sans rien et qui continuent à rester là-bas au milieu des prostituées, qui vivent avec elles, ils couchent avec elles, et pourtant ils n'ont plus d'argent, ou moins. Et donc tout ça fait que toute cette catégorie de tourisme sexuel se disparaît dans la réalité plus riche du vécu en Asie du Sud-Est. Et donc, de fait, on n'est plus dans ce qu'on nous dit du tourisme sexuel, on est dans autre chose. Et je ne parle même pas de ce qui existe, qui est omniprésent, ce sont les histoires d'amour. Qui sont des histoires d'amour absolument folles, dingues, de perdition et en même temps d'élévation. C'est-à-dire pour la première fois, ces gens, en se perdant, accèdent à une élévation, accèdent à une beauté de vivre qu'ils n'auraient jamais, ils n'auraient jamais possédé s'ils étaient restés ici. Et c'est ça qui est sidérant, c'est qu'à un moment donné, ils vont vivre des choses, et on va leur ouvrir des portes, on va leur faire vivre des choses qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir vivre parce que ils n'étaient pas nés dans la bonne classe pour le vivre. C'est pas des héros, c'est pas des gens voilà, forcément beaux ou quoi que ce soit. Et là-bas, ils vont vivre malgré tout de belles choses. Bah c'est plutôt merveilleux que l'existence à un moment donné produise ça. Et encore une fois, je ne fais pas l'apologie du tout de ce qui se passe forcément. Je dis simplement que c'est véritablement une porte ouverte vers ça, vers cette morsure esthétique de la vie. cette urgence, cette intensité, cette, ce qu'on a appelé la pulsion, en fait, ça, on peut l'appeler de plusieurs façons. C'est ça qui est magnifique. Et c'est pas du tourisme sexuel. Je veux dire, moi, je suis pas romancier à thèse. Voilà. On m'a souvent parlé de Houellebecq. Et j'ai jamais pensé à Houellebecq une seconde en écrivant ce texte. Non pas que je veux critiquer les Houellebecq, mais si. Le Houellebecq, ce sont des thèses, ces lectures, c'est d'abord de la sociologie, et voilà. C'est pas du tout ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, dans Plateforme, quand il parle de. Il parle jamais de. Il montre pas du tout Pattaya, il dit même une énormité sur les Thaïs, quand il dit que les Thaïs est un peuple qui n'est pas marqué par la notion de vie invisible, par les esprits. Enfin, c'est. Je veux dire, c'est la preuve qu'il ne connaît pas la Thaïlande. Enfin, je veux dire, c'est strictement l'inverse. Il y a une présence du monde invisible. Ils sont d'une superstition vis-à-vis des esprits. La nuit, c'est délirant. Si on leur dit que là où on va dormir, tiens, quelqu'un s'est suicidé, parce qu'il y a beaucoup de suicides, beaucoup de. Comme Kurtz, qui font le grand saut dans le vide pour en finir, ou parfois ils sont suicidés d'ailleurs, eh ben, ils veulent pas dormir là, parce qu'il y a l'esprit qui est là. Je veux dire, l'esprit est là, ils le voient en plus. Ils vont t'expliquer là, tu vois, je vois ça. C'est bon, c'est fou, et c'est pas simplement propre à la Thaïlande, c'est toute l'Asie qui est comme ça, et l'Asie du Sud-Est en permanence, avec en plus la jungle, la figure de la jungle, qui est alors là une source d'esprit où il y a des esprits à profusion. Donc voilà, il n'y a pas cette catégorie-là de tourisme sexuel. Ça fonctionne pas. Très vite, c'est autre chose qui se passe là-bas.
C'est là où ça intéresse l'écrivain. Je voudrais qu'on termine, Jean-Noël, sur ce que dit le scribe. Porn, c'est un peu comme Georgette chez Hubert Selby Jr., son last exit to Brooklyn. Inutile de recourir à Dieu, ma chérie. Quand il y a Selby, je suis français. Athée comme on vit, sans savoir pourquoi, mais la littérature, j'y crois. Rien n'est vrai, ni Dieu, ni théorème, ni prière, ni équation, mais Selby existe bien.
Ben oui, c'est mon credo, c'est mon art, c'est la littérature, et donc effectivement, c'est une posture, bon là que Scribe prend, mais qui traduit un peu ce qui est ma vie. C'est qu'au fond, on croit toujours à un moment donné en quelque chose. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu cette naïveté de croire en la littérature comme d'autres ont pu croire en Dieu. Et voilà, et je veux bien qu'on en rie, ça peut être risible. Mais ça a été ma croyance, et ça l'est toujours d'ailleurs. Autrement, maintenant, mais c'est ce pourquoi je... Encore une fois, bon qu'à ça, comme disait l'autre.
Merci beaucoup, Jean-Noël.
Merci.